Sajo et ses castors par Gray Hall, quatrième cassette, deuxième face, page 139. Ainsi Chapian garda pour lui seul le poids si lourd de son chagrin et creusa sa jeune tête pour trouver le moyen de gagner $50. Quant au prix du trajet aller-retour en chemin de fer, il n'avait même pas osé le demander. Par moments, il s'inquiétait aussi de ce que son père dirait quand il l'aurait mis au courant de l'affaire, bien qu'il se sentît à peu près sûr que tout ce qu'il faisait pour rendre la joie à Sajo serait aisément pardonné. Jusqu'au matin, il se tourna et se retourna sous sa couverture, en échafaudant toutes sortes de projets. Il avait entendu dire que certains de ces hommes blancs, spécialement ceux des villes, avaient bon cœur et ne ressemblaient pas du tout aux trafiquants. S'il pouvait seulement aller là-bas, voir les gens qui possédaient Chicani, leur expliquer ce qui se passait et combien tout le monde chez lui était malheureux, peut-être laisserait-il Sajo remporter Chicani, tandis que lui-même resterait en arrière jusqu'à ce que son travail eût payé la liberté du petit prisonnier. Car toute la dépense se montrait bien à $100. Pauvre Chapian, il ne pouvait pas s'imaginer une quantité d'argent supérieure à $100. Il avait entendu qualifier de riche un Indien qui possédait en véritable pièce d'argent cette somme qu'il avait gagnée en guidant dans la forêt des touristes américains. Les Gitchi Mokoman, c'est-à-dire les grands couteaux, comme les Indiens appellent les Américains, n'étaient pas exigeants pour le travail, racontaient les hommes du village, et considéraient plutôt leurs guides comme des amis que comme des serviteurs. Ils les payaient largement, et une fois l'expédition terminée, leur laissaient souvent leur tente, leur couverture ou leur fusil, quelquefois leur matériel de campement tout entier. Cette pensée suggéra à Chapian une idée nouvelle. La voici. Tous les 2 ou 3 jours, arrivait par la rivière à Rabbit Portage un gros vapeur disgracieux chauffé au bois avec 2 ponts et d'énormes roues à aubes. Cet invraisemblable bâtiment qui faisait la navette entre le chemin de fer et Rabbit Portage amenait de nombreux Américains. Sans doute certains d'entre eux avaient-ils besoin d'un guide. Or, c'était là une besogne dont Chapian pouvait fort bien s'acquitter. Plein de cette nouvelle idée, il se précipita vers le poste dès qu'il eut fini de déjeuner. Mais à cette heure, il ne s'y trouvait encore que le trafiquant, le bateau n'étant attendu que vers le milieu de la journée. Un peu avant midi, remontant péniblement la rivière, cet antique moyen de transport apparut. Décrivant une courbe majestueuse, il vint se ranger le long du quai dans un grand remous d'écume. Du bateau débarquèrent une bande de touristes avec leurs équipements de campement, dont un seul, pensa Chapian, aurait pu servir pour 40 personnes. Ils regardèrent avec curiosité le jeune Indien, ses mocassins de peau de daim, ses longs cheveux tressés. Pour beaucoup, c'était le premier Indien véritable qu'ils voyaient, et ils se communiquèrent tout bas leurs remarques pendant qu'un ou deux pointaient dans la direction de Chapian des boîtes noires dans lesquelles ils firent jouer un petit déclic. Chapian se sentait honteux et timide devant ces gens si bruyants et si étrangement vêtus dont les visages étaient ou très rouges ou très pâles. Il se sentit soudain très petit et très seul en face de tous ces étrangers, et se rendit compte que jamais il n'aurait le courage de se proposer comme guide à un seul d'entre eux. Il fit donc volte-face et s'éloignait aussi vite qu'il pouvait le faire sans courir lorsqu'il entendit une voix lui crier en indien. « Arrête, mon fils, arrête, je voudrais te parler !» Chapian n'avait pas encore aperçu d'Indien à Rabbit Portage. Il s'arrêta néanmoins et, se retournant, vit venir vers lui un homme qui n'était pas de sa race, bien qu'il parlât l'Ojibwe aussi bien que lui-même. C'était un homme blanc, grand et vigoureux, avec une chevelure blonde, soyeuse, et des yeux bleus. Pas des yeux bleus durs comme ceux du trafiquant, mais des yeux bleus souriants et pleins de bonté. Il portait une chemise blanche ouverte par devant et avait ses manches roulées au-dessus du coude. Tout ce qu'on voyait de sa peau était tanné par le soleil et d'une couleur presque aussi foncée que la peau d'un Indien. Lui aussi était chaussé de mocassins, mais en dépit de son trouble, Chapian remarqua qu'il marchait avec une certaine précaution, comme s'il n'était pas tout à fait habitué à ce genre de chaussures. Le nom de pied tendre, que l'on donne à ceux qui ne sont pas habitués à la vie des bois, vient de la difficulté avec laquelle ceux qui n'ont pas l'habitude de la vie en forêt marchent avec des mocassins tant que leurs pieds ne sont pas endurcis. L'étranger le rejoignit et lui posa la main sur l'épaule. Alors Chapian ne ressentit plus ni timidité ni gaucherie, et cessant de faire attention aux touristes tapageurs qui les considéraient tous les deux, il ne vit plus que ce souriant visage basané, il n'entendit plus que ce que lui disait cet homme aux cheveux blonds, qui parlait si bien sa langue, avec les intonations douces auxquelles ses oreilles étaient habituées. « N'aie pas peur, » dit l'homme blond. Dans son esprit, Chapian l'avait déjà nommé « cheveux jaunes ». Ces Jichimokopmans sont tous de bonnes gens. Ils aiment les Indiens et voulaient simplement prendre ton portrait. Il entraîna cependant Chapian plus loin, tout en continuant. « Allons jusqu'à ton campement et causons. Je veux que tu me racontes comment tu as traversé l'incendie. Voilà longtemps aussi que je désirais voir les enfants de longues plumes. » Et il lui expliqua qu'il connaissait très bien son père. Chapian comprit aussitôt que cet homme était un ami. Son cœur était attiré vers lui, et bien qu'il le connût depuis si peu d'instants, il sentit qu'il pouvait lui donner toute sa confiance. Il emmena donc son nouvel ami jusqu'au campement, en traversant les bois, au lieu de l'y mener en pirogue, car il avait souvent entendu dire qu'un homme blanc risquait de faire chavirer une si petite embarcation. Il découvrit par la suite que celui-là savait, pour sa part, manier une pirogue avec beaucoup d'habileté. Quand elle les vit arriver tous les deux, Sajo, qui préparait le repas, courut se cacher dans la tente. À part le trafiquant, qu'elle détestait, elle n'avait jamais vu d'homme blanc de si près, et Chapian s'aperçut que ce ne serait pas commode de la décider à ressortir. Cependant, quand elle s'aperçut que le visiteur parlait si bien l'Indien, et qu'elle entendit son rire joyeux, elle passa un peu la tête et se surprit bientôt à le regarder en face. Elle vit alors qu'il avait le regard le plus joyeux et le plus aimable du monde après celui de son père. Se voyant découverte, elle sortit tout à fait de la tente et, s'asseyant auprès du feu, fit mine de donner toute son attention à ses plats et à ses marmites. Mais comme elle avait tout de même bien envie de voir mieux cet étranger si gentil, elle tira son châle sur son visage pour jeter dessous cet abri des regards furtifs. Chaque fois que l'étranger la surprenait à ce manège, elle rougissait et baissait vivement la tête de façon que le châle dissimulât de nouveau son visage et s'affairait si bien autour du feu que le repas finit par être prêt. Ils se mirent alors à table tous les trois et l'estime de Chapian pour son hôte grandit encore lorsqu'il découvrit que cet homme blanc savait s'asseoir par terre avec autant d'aisance qu'un Indien, chose qu'il n'avait vu faire jusqu'alors à aucun étranger, sauf au trappeur. Le jeune homme aux cheveux blonds loua fort la cuisine de Sajo. Il y avait longtemps, dit-il, qu'il n'avait fait un pareil repas. Je le crois facilement, car ce repas se composait simplement de bannock avec de la graisse au lieu de beurre et de quelques tranches de viande de daim séchée, le tout arrosé de thé sans sucre. Mais à la façon dont il le disait, vous n'auriez jamais soupçonné que cette maigre chair n'était pas un régal. Après le dîner, il alluma une cigarette et fuma un moment. La vue de cette cigarette surprit Sajo. Les Indiens, y compris pas mal de vieilles femmes, se servent de pipe pour fumer. Et la petite fille n'avait jamais vu de cigarette. Tout en fumant, le jeune homme leur parla de lui-même. Il était missionnaire. non point, se hâta-t-il d'ajouter, de ceux qui voudraient changer complètement les coutumes et les croyances des Indiens, dont quelques-unes au moins lui semblaient fort belles. Mais il éprouvait pour eux les sentiments d'un frère. Il avait appris leur langue dans les livres et séjournait successivement parmi les cris des bois, les sauteux, les algonquins et les ogibouais qui, à peu de choses près, parlent tous la même langue. Il faisait la classe aux enfants, soignait les malades et tâchait d'apporter un peu de bonheur partout où il le pouvait. Pourquoi faisait-il tout cela? Parce qu'il estimait que tous les gens de l'univers appartiennent à la même grande famille, parce qu'il croyait que le grand esprit qu'il voulait servir aime également les hommes blancs et les hommes rouges et s'intéresse à tous. Il leur expliqua que toutes ses dépenses étaient payées par des personnes généreuses afin qu'il pût se donner tout entier à sa tâche sans rien demander aux Indiens. Le frère et la sœur écoutaient toutes ces choses avec étonnement, car ils avaient toujours cru que les gens de leur race étaient oubliés et que personne ne se souciait plus d'eux depuis qu'on leur avait pris leur pays. Cependant, il était impossible de ne pas croire cet homme quand il leur disait qu'il était un frère pour eux, bien que sa peau apparût toute blanche aux endroits que le soleil n'avait pas touchés et que ses yeux ne fussent pas noirs comme les leurs, mais bleus comme le ciel au milieu du jour. À ce moment, Chilaoui, qui était demeuré jusque-là sous la tente, occupé à sécher et à peigner sa fourrure après son dernier bain, se précipita au dehors en entendant un bruit de voix pour voir si l'on n'était pas en train de dîner. En apercevant l'étranger, il décida de l'examiner en détail et comme la table, un simple carré de toile de tente propre posé à même le sol, se trouvait sur sa route, il la traversa tranquillement, cheminant au milieu des plats jusqu'à ce qu'il fût arrivé en face du visiteur. Il s'assit alors sur son train de derrière et le considéra tout à loisir. L'aspect du dit visiteur dut beaucoup lui plaire, car il se mit à balancer la tête d'arrière en avant et de droite à gauche et à se dandiner tout à fait comme lorsqu'il dansait jadis. Puis, tout à coup, il tomba à la renverse au milieu des assiettes parmi lesquels il continua à se trémousser. Il y eut un grand fracas de choses culbutées et répandues, un éparpillement de tasses et d'assiettes, et Sajo, pour tout apaiser, se dépêcha de donner à Chilaoui un gros morceau de banoc, dans l'espoir qu'il irait le manger sous la tente. Mais cette fois, Chilaoui n'était pas du tout disposé à quitter la compagnie. Il s'accroupit sur la nappe, et prenant son banoc à deux mains, se mit à le savourer en gardant sur son visiteur son œil noir et brillant. C'était la première fois qu'il se livrait à ces comiques évolutions depuis le départ de Chicani. Sajo y vit un signe favorable et fut persuadé plus que jamais que les choses allaient bien tourner. Cheveux jaunes, pour sa part, trouva la danse de Chilaoui la chose la plus drôle du monde et en rit de si bon cœur que Sajo, oubliant toute timidité, en fit autant. C'était en effet un spectacle du plus haut comique et Chapian, en dépit du poids qu'il avait sur le cœur, ne put s'empêcher de rire un peu lui aussi. Le missionnaire, bien qu'en ayant déjà entendu parler par le trafiquant, leur demanda comment ils avaient pu apprivoiser si bien un castor, animal craintif entre tous. Il leur posa encore beaucoup d'autres questions et finit par leur faire raconter toute l'histoire de Chilaoui et de Chicani. Quand il l'eut terminé, Chapian ajouta qu'il cherchait maintenant du travail afin de gagner suffisamment d'argent pour aller à la ville, reprendre Chicani et le ramener au village. Le visage du jeune missionnaire avait perdu son expression joyeuse pour prendre un air grave. Et il demeurait silencieux. Il savait, mais se garda de le dire, que Chapian ne trouverait pas de travail à la ville. Il étendit la main pour caresser le poil doux et soyeux du petit castor en murmurant en anglais. Ainsi donc, voilà gros petit. et tout petit et loin d'ici, tout seul dans la grande ville. Et ces pauvres enfants. Non, il faut faire quelque chose. Il jeta un coup d'œil à sa Jo. Elle avait ramené par-dessus sa tête le châle qui avait glissé sur ses épaules. Mais il aperçut tout de même deux grosses larmes qui roulaient lentement le long des joues de la fillette, bien qu'elle s'efforçât de les retenir. Il se leva pour partir et leur dit « Je suis votre ami et l'ami de votre père. Je reviendrai demain et nous dînerons encore ensemble. Peut-être pourrais-je enlever le nuage qui obscurcit votre chemin. Je n'en suis pas sûr, mais je m'y efforcerai. C'est ma tâche d'aider à dissiper les brumes qui cachent le soleil afin qu'il puisse briller sur nous tous. » Il fit un signe de la main et disparut. Chapitre 12. Les grands couteaux. Dès son retour, le missionnaire eut un long entretien avec le trafiquant dans le bureau du poste. Il en sortit avec une grande feuille de papier sur laquelle le mot « avis » s'étalait en grosses lettres et la fixa sur la porte de l'établissement. À ce moment de la journée, les touristes étaient encore nombreux aux alentours. Quelques-uns d'entre eux, ayant vu le jeune homme poser l'affiche, voulurent savoir ce qu'elle annonçait. L'affiche invitait tout le monde à venir à 4 heures à la maison d'école indienne située sur la colline derrière le poste pour assister à une réunion où serait traité un sujet très intéressant. Dans un si petit pays, les nouvelles se répandent rapidement. Les touristes, curieux de savoir ce que voulait leur dire ce jeune missionnaire à l'air affairé, répondirent tous à son appel. La salle d'école était petite. Plusieurs durent rester au dehors et écouter par la porte et les fenêtres ouvertes. Le jeune homme aux cheveux blonds se tenait au bureau du maître et quand chacun eut pris place, il se mit à parler. Au début, on entendait les gens chuchoter, toussoter, remuer les pieds, mais ces bruits cessèrent bientôt et les auditeurs écoutèrent de toutes leurs oreilles. Le jeune missionnaire leur racontait une histoire. Ce n'était pas à cela qu'il s'attendait, une histoire comme il n'en avait jamais entendue. Or, il avait un talent tout spécial pour raconter les histoires, ce frère blanc des Indiens. Personne ne bougeait dans l'auditoire et l'on n'entendait plus d'autres sons dans la salle que celui de sa voix. L'histoire qu'il leur racontait était celle de Sajo, de Chapian, de Gros-Petit et de Tout-Petit. Voilà comme il conclut. Rappelons-nous que nous demeurons le gardien de notre frère. Rappelons-nous que ces enfants qui ont bravé les dangers de la grande solitude, comme nous n'aurions peut-être pas su le faire nous-mêmes, ces enfants qui diffèrent de nous par la couleur, la langue, les habitudes, sont en ce moment sous notre protection et que vous et moi, nous en sommes responsables. Il ne s'agit pas pour nous simplement d'une paire de petits sauvages, mais de deux enfants très malheureux. Et qui sait si les petites bêtes qu'ils aiment tant n'ont pas elles-mêmes des sentiments très semblables aux nôtres. Avant de nous séparer, laissez-moi vous indiquer que vous trouverez à droite de la porte une grande boîte à thé vide de la compagnie, d'une contenance d'un litre environ. Vous devinez, je pense, ce que cela veut dire. Quand il eut fini, une légère rumeur s'éleva dans la salle. Chacun paraissait pressé d'exprimer ses opinions. Des dames s'exclamaient « Oh, avez-vous entendu jamais une chose pareille ? Songez à ce long trajet, tout seul, pauvre petit, avoir passé à travers cet effroyable incendie. » Les messieurs se levaient et tout en fouillant leurs poches se disaient tout haut les uns aux autres. « C'eût été dommage de manquer cela. Où sont-ils ? Il faut que nous fassions quelque chose pour eux. » Quelqu'un demanda « Où a-t-il dit que se trouvait cette boîte ?» Et tandis que les assistants sortaient un par un de la salle, un bruit joyeux de pièces de monnaie mêlé à un froissement de billets neufs ou vieux, se fit entendre dans la boîte à thé vide. Et pas seulement des billets d'un dollar, s'il vous plaît, mais de 2, de 5 et même de 10 dollars. Des jeunes gens qui voulaient apporter leur quote-part versèrent dans la boîte tout ce qu'ils pouvaient prendre sur l'argent de leurs vacances. le trafiquant sortit le dernier de tous. Arrivé à la porte, il regarda soigneusement autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait. Puis il cligna de l'œil et, avançant vivement la main comme s'il avait peur d'être vu, il laissa tomber dans la boîte un petit paquet serré de billets pliés ensemble en murmurant « Tiens, Chikaoui, ou Chikaki, ou Chilaki, ou Chikali, voilà pour te souhaiter bonne chance. » Mais le jeune homme au teint basané était demeuré sur l'estrade et comme il avait une vue excellente, ceci ne lui échappa point. Plus tard dans la journée, le missionnaire se rendit au campement des enfants. Quand Chapian vit tout cet argent, il ne put croire que ce fût pour lui. Il prit même un air un peu effrayé pour demander « Que dois-je faire? Quel travail veulent-ils que je fasse pour eux ?»« Aucun, » répondit le jeune missionnaire. « Au reste, tu n'as pas le temps de travailler en ce moment. Il faut que vous partiez tout de suite ou vous ne retrouveriez peut-être plus votre petit ami. Les animaux s'ennuient parfois au point d'en mourir. Les Gichimokomans m'ont chargé de te dire qu'ils te faisaient don de cet argent. » La race à laquelle ils appartiennent s'est montrée jadis très cruelle à l'égard des Indiens. Ils se rendent compte maintenant du mal qui vous fut fait alors, et c'est pourquoi ils veulent vous venir en aide. Tout ce qu'ils demandent, c'est que lorsque tu verras quelqu'un dans la peine, tu lui prêtes secours à ton tour. « Oui, » dit Chapian avec ardeur, « dites-leur que je n'y manquerai pas et que je les remercie tous. » Et ses yeux, qui étaient restés secs au milieu de tant d'épreuves, se remplirent de larmes. On plaça avec soin dans une enveloppe cet argent que Sajo considérait avec de grands yeux ronds, exprimant l'émotion, la joie et une demi-douzaine d'autres sentiments qu'elle eût été incapable d'expliquer. Elle n'avait jamais vu une aussi grosse somme et dans son expérience, il lui semblait que rien ne les séparait maintenant de Chikani, plus rien du tout. Elle était toute joyeuse, mais elle n'éprouvait aucune surprise. Ne savait-elle pas que tout finirait bien et que les hommes blancs n'étaient pas aussi méchants qu'on le prétendait? Tout cela servait seulement à prouver que son rêve ne l'avait pas trompée. Le jeune missionnaire mit dans l'enveloppe une lettre pour le chef de la station de chemin de fer, où il demandait 2 billets d'aller-retour pour la ville. Une fois ces billets payés, il ne resterait pas grand-chose de cette somme qui paraissait inépuisable, car si les touristes s'étaient montrés généreux, ils n'étaient pas en somme très nombreux. Le missionnaire se dit que Chapian serait peut-être obligé de rester quelque temps à la ville pour gagner le prix de la liberté de Chikani, si les propriétaires du jardin public se prêtaient à cette combinaison. En tout cas, c'était une expérience à tenter. Le missionnaire donna aussi à Chapian une lettre pour le directeur de son groupe d'œuvres qui pourrait leur procurer un logement, et il dit au jeune garçon qu'en arrivant à la ville, il devait demander à être conduit à un policeman et montrer à celui-ci l'adresse inscrite sur l'enveloppe. Le missionnaire expliqua avec précision à quoi ressemblait un policeman, comment il était habillé, et fit répéter le mot plusieurs fois à Chapian. Chikani, leur dit-il, avait été vendu au propriétaire d'un jardin zoologique, et n'importe quel policeman saurait les y conduire. Maintenant, pensait Chapian, il pourrait peut-être, avec un peu de chance, être revenu au village pour accueillir leur père dont le retour avec la brigade était attendu sous peu. Et il se dit que quand on est appelé à rendre des comptes dans une affaire où l'on ne se sent pas absolument sans reproche, certaines explications sont beaucoup plus faciles à fournir si tout a finalement bien tourné. Leur ami les aida à cueillir une provision de petites branches de peupliers pour servir de nourriture à Chilaoui avec le bannock fait par Sajo, et il leur promit de prendre soin de leur pirogue et de leur matériel de campement jusqu'à leur retour. Le lendemain, à l'heure du départ du train, tout ce que le pays comptait d'habitants était sur le quai. Plusieurs des dames américaines avaient été conquises par la petite Sajo, qu'elles appelaient « œil de velours » ou « petit mocassin ». Les hommes serrèrent tous la main de Chapian, en lui disant qu'il était un garçon courageux et qu'ils étaient fiers d'avoir fait sa connaissance. Chilaoui lui-même eut sa part d'amabilité, ce qui ne lui causa, je crois, qu'un médiocre plaisir, car il tourna le dos à tout le monde d'une façon fort peu civile et continua à s'occuper tranquillement de ses petites affaires. Le trafiquant était là aussi, jetant autour de lui des regards sévères, comme s'il désapprouvait pleinement toute cette mise en scène, car il tenait à ce que personne ne sût qu'il avait donné de l'argent pour une aussi ridicule entreprise. Un peu à l'égard de la foule, le missionnaire considérait le trafiquant avec un sourire furtif. Il s'avança jusqu'à la passerelle au moment où Chapian et Sajo montaient à bord du bateau les conduisant à la station de chemin de fer, leur prit la main, caressa le museau du petit castor et dit « Bonne chance, petits enfants de Gitche Miguon. J'expliquerai tout à votre père. Puissiez-vous réussir et regagner heureusement votre pays tous les quatre. Nous attendrons ici votre retour. » Fin de la deuxième face de la quatrième cassette de Sajo et ses castors par Gray Hall, page 159.